Si vous n'aviez que le son, comment est-ce que vous représenteriez un fantôme, Daniel Dehaye ?
Il y a beaucoup de formes, mais en fait, c'est ça la vraie question. C'est que, hors les créations cinématographiques où les fantômes sont bien vivants et sont placés aux côtés des vivants, c'est par le son qu'on fait exister les fantômes. Et or, il y a autant de formes que de créateurs. Chaque film appelle à inventer sa forme. Alors il y a des clichés, bien sûr, il y a des formes qui sont très récurrentes parce qu'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'imaginaire. Et donc on retrouve selon les époques les mêmes types d'effets. Mais il y a un certain nombre d'effets, oui, qui sont proches les uns des autres. Alors en général, il y a des grandes tensions, il y a des mises en charge de l'espace, mais qui sont liées aussi à des phénomènes autres, par exemple des phénomènes atmosphériques. Il se met à faire froid, donc on voit de la buée qui arrive. Il y a des phénomènes visuels qui sont ajoutés. Mais au niveau du son, c'est souvent, alors avec une dominance des effets musicaux, bien sûr, il y a des films qui travaillent d'ailleurs qu'avec la musique, uniquement avec ça, des films entiers qui sont où il n'y a en fait aucun effet sur l'arrivée des fantômes. Sinon, il y a des formes très différentes. Ça peut être des bruitages faits avec des brosses. Mais en même temps, on voit souvent des objets qui se déplacent. C'est pas parce que les fantômes, quand ils ne sont pas visibles, c'est des signes qui sont liés à des déplacements d'objets. Donc c'est le bruit des objets qui se déplacent eux-mêmes, etc. Mais il y a énormément, il y a une grande diversité de formes sonores. Oui. En fonction finalement des formes des films, les bruitages sont d'une nature ou d'une autre. Bien sûr, il y a des gimmicks, il y a des formes qui reviennent, qui sont des lieux communs, mais finalement, pas tant de formes fixes. Enfin, il y a des tensions aiguës, il y a des... Alors, s'il y a des événements qui sont liés à des forces. Par exemple, les fenêtres qui s'ouvrent d'un coup et le vent qui arrive, qui sont d'ailleurs, qui peuvent exister aussi sur le visuel, les lumières qui s'éteignent ou qui se rallument, voilà, des formes qui sont, mais qui seront comme si des forces activaient des éléments qui sont normalement activés par des humains, quoi. Mais il n'y a pas, en fait... Il faudrait en voir des quantités parce qu'il y a énormément de variétés de films. Bien sûr, on retrouve des choses. Mais par exemple, il y a des voix souvent qui sont là et qui sont dans l'air. Des chants, des... Alors, c'est pas forcément musical. Ça peut être aussi des râles, ça peut être des respirations, ça peut être des souffles, ça peut être des chœurs. De voix d'hommes ou de femmes, voilà, mais qui sont pas forcément très musicalisées. Ça peut être de la matière sonore, vraiment une matière. Alors, qui est aussi traitée. On a, par exemple, dans des films assez récents, il y a des éléments qui sont avec des reverse, des sons à l'envers, ou avec des accélérations ou des ralentissements de sons. Par exemple, des cris de bébé qui sont ralentis. Il y a des formes comme ça, qui sont bricolées à partir de l'humain ou à partir de cris d'animaux. On reconnaît, par exemple, des cris de vaches qui sont très ralentis. Voilà, des formes comme ça. Mais, en fait, Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même un déficit de créativité. On est toujours dans des formes un peu les mêmes, même si elles sont très diverses dans les réalisations. Disons, les films sont traités de la même façon, un peu de la même façon, sur des éléments de peur. C'est quoi ? C'est les surgissements, c'est avec des tensions qui ont été montées longtemps avant, avec la musique, progressivement, mais de manière croissante et avec des grandes intensités d'un seul coup qui arrivent. Quand les fantômes sont là, la musique, on est dans le climax, quoi, on est au niveau le plus élevé. Donc voilà, c'est des formes assez récurrentes, quoi. Alors, il y a des films qui n'ont pas de son particulier amené par les fantômes, parce que les fantômes sont traités comme des humains et comme des vivants. Il y a des films qui montrent des personnages. On apprend, par exemple, à la fin du film que c'était un fantôme, mais aucune manifestation fantomatique, sonore, ni même visuelle, hein, n'a eu lieu pendant tout le film. Donc, c'est vrai qu'il y a des formes possibles qui ne soient pas avec des clichés, quoi. Hein.
Le domaine du son est souvent perçu du point de vue de la technique. Grâce à des techniques d'enregistrement sophistiquées, on voudrait capter la matière sonore pour la restituer dans son intégralité de la manière la plus exacte possible. Mais on peut aussi agir sur cette matière sonore. La réalisation sonore, pour vous, c'est une création artistique au même titre que le cinéma, que la musique ?
Oui, mais elle est liée de toute façon à la musique et au cinéma, mais elle devrait exister en soi. Alors la radiophonie permet aussi de faire exister des formes de création sonore. La question du son qui est ramené tout le temps à la technologie, c'est quelque chose qui réduit le regard que l'on a sur elle. En fait, le sonore, il n'est pas plus technologique que le dessin ou que la photographie ou que... C'est parce que c'est un immatériel, en fait, que cet aspect est toujours montré. C'est-à-dire que comme l'objet ne reste pas là, comme l'objet est un objet éphémère, ben on montre les outils qui servent à le traiter, ou on parle des effets qui seraient des traitements particuliers. Mais tout art assez technique, et puis il y a une infinité de techniques différentes. On pense toujours que le sonore doit être propre, clair, etc. Finalement, l'approche des films qui traitent du fantôme nous montre le contraire. C'est souvent des sons sales, c'est souvent des sons qui sont traités dans un grand écart avec la réalité, dans un écart avec le réel, qui fait que ces sons sont plus prégnants. Donc en fait... Tout est possible, c'est pas parce qu'un enregistrement a une mauvaise qualité qu'il n'est pas puissant. Si vous récupérez un enregistrement à travers un téléphone d'une personne en détresse, la qualité ayant beau être mauvaise, en fait, l'élément sonore est puissant, quoi. Donc, finalement, la question du son n'est pas une question de propreté ou de qualité. Il faut employer le mot de qualité dans son sens le plus large, c'est-à-dire de diversité.
Dans le cinéma, de nos sens, c'est peut-être la vue que les réalisateurs cherchent à toucher le plus. Est-ce que le son qui est si apte à donner corps au fantôme, vous l'avez dit, n'est pas lui-même, par sa présence un peu invisible, le fantôme de la création cinématographique ?
Absolument, absolument. Je crois que l'écoute est inconsciente, mais il n'y a pas que l'écoute. Bien sûr, la vision est aussi inconsciente. On a peu de conscience de nos sens. Mais en ce qui concerne l'écoute, c'est encore plus parce que le synchronisme, par exemple, du cinéma fait qu'il y a fusion entre l'image et le son et que du coup, on n'entend plus. du son plus une image égale un événement. Si on perd le synchronisme, on a un son et une image qui sont différents, qui racontent des choses différentes, et on a à ce moment-là 1 + 1 = 3. Autrement, on a 1 + 1 = 1. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est justement quand le son reprend une liberté par rapport aux images. Alors, on a ça ailleurs, on a ça par exemple dans tout le cinéma d'animation. Le cinéma d'animation travaille à fabriquer un sonore d'une image qui n'est pas réelle. Et donc, c'est quoi le sonore d'une image dessinée, hein, ça n'existe pas. Donc, c'est que de l'imaginaire. Et c'est là où on voit que finalement, la création sonore qu'il y a dans le dessin animé est une création puissante parce qu'il y a un écart entre ce que je vois et ce que j'entends. Au cinéma aussi, hein, tout le travail du bruitage, c'est jamais du bruitage qui utilise des vrais objets, ça utilise des faux objets. Et c'est justement ça qui est intéressant, c'est parce que ça va produire un écart d'écoute entre ce qui est attendu, qui serait implicite par ce que l'image produit, et ce qui est donné à entendre. Et c'est cet écart-là qui crée de la poésie, qui crée une distance d'imaginaire qui va être au bénéfice de l'image. Parce que le son ne travaille jamais à son propre bénéfice. Il travaille toujours au bénéfice de l'image. On n'entend jamais le son. Hein. Il faut se pincer tout le long du film pour pouvoir avoir conscience de son écoute. Ou alors, il faut retirer l'image et puis écouter le film, et puis ensuite remettre les images et voir comment ça fonctionne.
Et dans le processus de réalisation cinématographique, qui donne sa forme sonore au film ?
C'est une bonne question, parce qu'en fait, on pourrait dire personne. Hein. C'est une assemblée de gens qui, successivement, vont faire des tâches qui ont toutes des implications. Alors, ce n'est pas forcément les gens du son. Un scénariste, quand il écrit et qu'il décide que ça va être une scène de nuit, eh bien, il détermine énormément de la qualité de la nature sonore qui va arriver. Quand on décide de tourner dans un restaurant, il va falloir repenser la question du son et se dire est-ce que je garde l'ambiance réelle du restaurant très très bruyante ou bien est-ce que tout le monde va faire semblant de manger et on va rebruiter tout ensuite en décidant de ce que l'on bruite et ce que l'on ne bruite pas. En fait, c'est ça la question de la fabrication sonore du cinéma, c'est de s'interroger sur ce qui est nécessaire et suffisant pour faire exister les images au point de vue du son. Mais ça se fait à tous les stades de la construction cinématographique. Ça se fait bien sûr à l'écriture du scénario, mais ça se fait aussi sur le plateau, ça se fait ensuite au montage son, et puis ça se fait en post-production de bruitage ou de son seul ou de refabrication sonore sur les scènes. Tout peut être doublé, tous les dialogues peuvent être doublés. Il y a des cinéastes qui ont travaillé comme ça. Jacques Tati, par exemple, a travaillé en refaisant. Il tournait avec aucun son. Hein. Sur le plateau, il n'y avait pas de son direct. Il écrivait en pensant le son, mais le tournage était sans son. Et c'est en post-production qu'il refaisait tous les sons. Ce qui lui permettait de retirer les trois quarts des sons et de mettre des sons qu'à l'endroit qui l'intéressait et à faire entrer et sortir les sons successivement dans une même scène. Donc il activait le regard des spectateurs en déplaçant les sons, en mettant les sons à l'endroit qu'il voulait désigner. Et tous les spectateurs regardent ces détails uniquement parce que le son les active.
Taoji. Taoji, on va tous en dire. Allez. 俺何言ってんだ。
De ce que vous dites, j'ai l'impression que l'image commande beaucoup au son. Est-ce que ça arrive que le son commande à l'image aussi au cinéma ?
Mais c'est plus compliqué que ça, mais on pourrait dire ça. Moi, je me souviens, quand je faisais du cinéma direct, par exemple, avec Yann Lemasson, on faisait du documentaire à l'époque, il me disait « je te suis ». C'est-à-dire qu'il avait toujours un œil dans la caméra, mais l'autre œil à l'extérieur, qui regardait où j'étais avec le micro, et qui il savait que moi, je ne portais pas de casque, et que donc, je savais d'où venaient les sources, et je pouvais aller très rapidement à l'endroit où les choses étaient intéressantes à saisir. Et lui cadrait en fonction de ça. Donc, oui, là, dans ce cas-là, par exemple, c'est le son qui commandait. Mais on n'est pas toujours dans cette situation-là. Il y a des moments où c'est comme ça, et puis des moments où ça ne l'est pas. Par ailleurs, c'est sûr que dans un plan général, quand on met un son sur un détail, on ne commande pas l'image, mais sauf que c'est le son qui fait voir dans l'image, qui détermine des zones de regard à l'intérieur du cadre. Et ça, c'est réorganiser la lecture d'une image par le son.
Le son peut être mis en scène, en fait.
Ah, complètement. Je pense que faire une prise de son, c'est mettre en scène le son. Selon la distance même du micro à la source, ça change tout. Si on s'éloigne, on commence à faire entendre le contexte, on commence à faire entendre les lieux, on commence à faire apparaître un contexte social finalement. C'est-à-dire que la parole n'est plus hors sol, elle est remise dans le relatif d'un lieu de vie, d'existence. Ça la remet aussi à l'heure. Hein. D'un seul coup, on entend quelle heure il est en fonction de nombre de personnes qui sont dans la rue, etc. Donc, finalement, la mise en scène du son, elle se fait dès la prise de son. Après, elle se fait évidemment dans son organisation en termes de combien de sons dans un cadre et dans cette image. Et comment j'éclaircis en fait l'écoute ou au contraire, je la rends plus épaisse et plus dense. Il y a des cinéastes qui ont travaillé énormément ça. Hein. On les connaît moins maintenant, les nouvelles générations les connaissent moins, mais Bresson a travaillé énormément ça. Il a travaillé dans les purs. Mais Jean-Pierre Melville, des grands cinéastes de polar, par exemple, Melville, il disait tout le temps, moi je travaille avec la pègre parce que ça parle pas. Il disait, comme ça, j'ai pas de dialogue à écrire. Et il faisait travailler les bruitages, et uniquement les bruitages. Et ces films sont très puissants. Ils sont complètement creusés. Si on regarde le cercle rouge, toute la scène du casque qui doit durer un quart d'heure dans le film, d'un casque d'une bijouterie, il n'y a pas un son, ou très peu, très très peu. Les spectateurs sont en apnée, les spectateurs sont complètement bluffés. Et il n'y a aucune information sonore. Tout se passe à l'œil dans un silence qui est relatif. Hein. Il y a des fonds de lumière, de néon qui font du bruit, de quelques éléments, mais très peu, très très peu. Donc c'est aussi des modes. On est dans une époque où on bruite énormément, où les films sont saturés de son. Hein. Les films sont très très denses. Bon, les films de fantômes sont saturés de son aussi. Donc le cinéma est un sonore qui peut être très fantomatique ou pas du tout fantomatique, hein, selon les époques, selon les typologies, les genres de films. Hein, par exemple, le film d'action est bourré de musique, bourré de son. C'est surmixé. Depuis l'arrivée du numérique, c'est encore plus. C'est-à-dire que jusqu'au numérique, on travaillait en analogique, on avait 12, 13 pistes, 14 pistes maximum de mixage. Maintenant, on mixe les films avec 300 pistes, ce qui est une aberration, parce qu'il faut savoir que notre cerveau ne peut tenir qu'une information à la fois. Donc, il va trier, il va essayer d'entendre ce qu'il peut quoi, dans la surcharge.
Je le disais tout à l'heure, vous intervenez au cours d'une conférence dans le festival Court-Métrange, une conférence sur l'existence sonore des fantômes. Est-ce que le domaine de l'étrange, du fantastique, de l'horreur, de l'insolite est propice à la création sonore ?
Oui, mais elle est souvent lourde. C'est ça le problème. C'est que je crois que tout le cinéma est propice à la création sonore. Et je crois que, pas seulement le cinéma de genre, je crois que le problème majeur, c'est qu'il est très peu pensé parce qu'il est très peu enseigné aussi. Moi, j'ai commencé à enseigner ça au Festival des scénaristes, qui était à Bourges jadis et puis qui est à Valence maintenant, et où là les scénaristes découvraient que effectivement ça peut se passer à l'écriture. Et un enseignant de la FEMIS qui était là, qui a vu le résultat du travail que j'avais fait avec les stagiaires, m'a dit: mais il faut que tu fasses travailler mes étudiants à la FEMIS, parce que on ne pense pas à ça. Or, ça peut se penser à l'écriture, mais vraiment fondamentalement. C'est-à-dire que moi, je les emmène avec des magnétophones sur le terrain, à l'endroit à partir duquel ils vont commencer à écrire un scénario. Chaque année, les troisièmes années, ont une thématique qui est liée à un lieu. Et donc, ils vont sur ce lieu avec des magnétos, je les emmène avec les magnétos, et on fabrique un bout de film, pas beaucoup, 5 minutes, ce qui est déjà énorme, en une quinzaine de jours, en partant du son. Et ensuite, on rentre des images dessus, qui peuvent être des photos ou des bouts filmés, hors synchro. Et ce qu'ils produisent est souvent absolument incroyable. Mais ça renverse la procédure, et ça leur fait prendre conscience que, par le sonore, d'un seul coup, ils pensent l'espace. Par le sonore, ils pensent le temps, qui sont des facteurs qui ne sont pas pensés en écriture scénaristique normale. Et donc, ça les déplace complètement dans leur mode de fabrication du cinéma. Mais maintenant, c'est les réalisateurs, c'est les monteurs, c'est ces gens-là qu'il faut former aussi. Ils ne se rendent pas compte que c'est eux qui sont responsables du son du cinéma. Vous posiez la question tout à l'heure, où se fait le son du cinéma? Mais voilà, il se fait tout au long. Et un monteur, c'est dommage qu'il y ait des monteurs son qui travaillent hors des monteurs images. Jadis, on montait l'image et le son ensemble, et c'est fondamental parce que l'arrivée d'un son modifie la longueur d'un plan, ou soit le rallonge, soit le raccourci, mais on est obligé de le reconsidérer. Et on ne peut pas se rendre compte de ça à la fin du montage son, alors que même les monteurs ne vont même plus en mixage maintenant, parce qu'il n'y a même plus de budget pour leur permettre d'aller en mixage. Donc, non, il y a un vrai problème, parce qu'il y a un déficit de pensée du son. Or, le son, c'est l'agent secret, c'est l'élément qui fait que le cinéma est puissant ou ne l'est pas. Voilà. Et ce n'est pas une question de puissance en termes d'intensité et de niveau sonore. C'est en termes d'intensité, oui, mais de dramaturgie. Hein.